C'est à la page 618, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel vit un songe et des visions de sa tête sur son lit. Alors il écrivit le songe et raconta la somme des choses. Daniel prit la parole et dit, « Je voyais dans ma vision de nuit, et voici les quatre vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées, et qu'elle fut soulevée de terre, et mise debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une autre, une seconde bête, semblable à un ours, et elle se dressait sur un côté. Et elle avait trois côtés dans sa gueule, trois côtes dans sa gueule, entre ses dents. Et on lui dit ainsi, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je vis, et en voici une autre, comme un léopard. Et elle avait quatre ailes d'oiseau sur son dos, et la bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je vis dans les visions de la nuit, et voici une quatrième bête, effrayante et terrible et extraordinairement puissante. Et elle avait de grandes dents de fer. Elle dévorait et écrasait. Et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle. Et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre corne, petite, monta au milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, il y avait à cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche proférant de grandes choses. Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, les roues du trône un feu brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit, et les livres furent ouverts. Je vis alors, à cause de la voix des grandes paroles que la corne proférait, je vis jusqu'à ce que la bête fût tuée, et son corps fut détruit, et elle fut livrée pour être brûlée au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, jusqu'à une saison et un temps. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un, comme un fils d'homme, vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, et l'honneur, et la royauté, pour que tous les peuplades et les langues, le servissent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit.
L'entendre, nous revenons un petit instant sur les chapitres intermédiaires entre 2 et 7. Et nous aimerions souligner encore un fait ou deux très importants. La parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous aimerions attirer l'attention des auditeurs sur la manière de procéder à la fois des délateurs, des accusateurs de ce résidu fidèle et du roi lui-même. Il n'y a rien de nouveau. Donc, le résidu est épié de la part de gens qui sont à la solde du roi et qui, ayant constaté leur manière de faire contraire à l'opinion générale, à la puissance établie et au droit qu'elle exerce sur les sujets, en piétant sur les droits de Dieu sans doute, ces accusateurs ne manquent pas de faire rapport au roi. D'où, au verset 13, la colère et la fureur. Mais c'est une colère et une fureur contenue. Et vous avez dans les versets qui suivent exactement le canevas, le principe des interrogatoires auxquels sont soumis les fidèles encore aujourd'hui. Tout d'abord, Le roi parle d'une manière interrogative. Est-ce à dessein, Sadrach, etc., que vous agissez ainsi, en vue de faire naître la crainte dans leurs esprits, dans leurs cœurs, les mettant dans une alternative très difficile, ou bien dire oui, c'est à dessein, ou bien dire non, car il n'y a pas moyen de biaiser, d'établir un compromis. Le roi est en colère, en fureur, mais il se contient. Et voilà la manière de procéder. D'abord un interrogatoire précis quant à leur attitude. Vous ne servez pas mon Dieu et vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai faite au verset 14. Un peu plus loin, nous avons des points de suspension dans le verset 15, mais ils ne sont pas sans raison. Si au moment, au verset 15, vous entendez le son de la musique, si vous êtes prêt à vous prosterner et adorer la statue que j'ai faite, eh bien, vous serez absous. Il n'y aura pas de poursuite. Rien de contraire ne vous arrivera. Sauf que les points de suspension, c'est l'occasion laissée à ces témoins de se rétracter, de dire au roi, eh bien, oui, nous voulons nous soumettre et nous ranger à l'ordre établi et être identifiés avec tous tes sujets et adopter leur manière de faire. Les points de suspension laissent donc la porte ouverte à un changement, un aveu, une confession, comme on l'exige aujourd'hui, d'erreurs antérieures, de déviations, pour rentrer dans le rang. De sorte que le procès serait clos à cette condition. Mais les fidèles ne tombent pas dans le piège. Et les points de suspension, après les points de suspension, il y a la menace. Mais si vous n'exécutez pas mes ordres, si vous ne vous rangez pas à ce qui a été établi, aux règles, aux principes qui sont à la base de cette société que je dirige et à laquelle vous devez vous soumettre, alors les pires menaces sont faites. Vous allez être jetés dans la fournaise de feu. Une véritable inquisition, un tourment moral avant de passer à la torture en bonne et due forme, serait jeté dans la fournaise de feu. Nous nous imaginons, chers amis, quelle était la portée de cette menace. Et elle était réelle, car le fait se produisait. Nous avons dans le prophète Amos, nous avons dans le prophète Jérémie, deux exemples où des hommes en marge de la société étaient grillés au feu. L'Éternel reprochera au roi de Moab, par exemple, d'avoir brûlé au feu les rois d'Édom et d'avoir réduit en chaux ses eaux. Et d'autre part, dans le prophète Jérémie, le roi de Babylone jette deux hommes au feu comme châtiment suprême, attaché à la conduite qu'on leur reproche. Donc ce n'était pas une menace en l'air, c'était une menace réelle. Fournaise de feu existait réellement. Alors, nous nous représentons, chers amis, ce que c'était que d'être jeté vif dans une fournaise ardente. Et qui est le Dieu qui vous délivra de ma main? J'ai autorité sur vous. Personne ne peut intervenir en votre faveur. Et ceux qui vous défendent, vos coreligionnaires dans d'autres pays, etc., et votre Dieu, tout cela, ce sont des balivernes dont je fais table rase. Personne ne peut vous donner le moindre secours. Il vous faut céder. Eh bien, nous pouvons conclure, chers amis, le courage de ces témoins ne pouvait être reçu que du Seigneur. Et ils ne contestent pas cette autorité, si néfaste qu'elle soit. Le Seigneur dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'était donné d'en haut. Quoique ce pouvoir soit employé, utilisé, pour des desseins meurtriers, pour accomplir les desseins de Satan. Le Seigneur reconnaît l'autorité telle que Dieu l'a donnée, ne la met pas en doute, la reconnaît comme telle, quelle que soit son application. Sauf que, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et l'homme n'a pas le droit d'empiéter sur ma conscience, de se substituer à Dieu. Dans ce cas, il n'y a pas de compromis possible. Et c'est ce que ces témoins nous donnent comme leçon. Préférons la fournaise de feu, le martyr, plutôt que de renier leur foi. Quel exemple pour nous. On comprend que Les saints qui souffrent aujourd'hui, comme cette parole de Dieu peut leur être utile et en consolation, trouvant dans celle-ci tout, ils comprennent bien ce que nous venons d'essayer de placer, que tout cela se passe au milieu d'eux et contre eux. Mais Dieu est fidèle. Nous rappelons ce matin que le temps ne compte pas pour Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, avec les derniers comme avec les premiers. Enfin, dans le chapitre suivant, nous l'avons entendu, nous avons l'impiété manifeste. Nous avons les rois qui deviennent des bêtes. Dans le chapitre suivant, nous avons l'impiété manifeste. Le roi boit dans les vases d'or et d'argent qui ont été soustraits dans le temple de Jérusalem, et il insulte ainsi l'Éternel lui-même, d'où le châtiment qui tombe sur lui. Et enfin, Darius s'exalte lui-même. Remarquons dans l'histoire de Darius que c'est après avoir détruit Babylone qu'il s'érige en Dieu. C'est exactement ce qui se passera demain. Babylone sera détruite par la bête, et c'est à ce moment-là que la bête s'exalte au point d'exiger l'adoration de tous les sujets. Vous voyez quelle similitude entre ces chapitres et les chapitres prophétiques de l'Apocalypse qui se précisent aujourd'hui à l'horizon d'une manière tellement précise. Ceci dit, nous abordons maintenant ce chapitre 7, chapitre difficile, mais si nous n'avions que les ressources de notre esprit, nous devrions dire qu'il est impossible que nous comprenions de telles pensées. Et Dieu ne les a pas écrites de façon confuse, de façon compliquée à dessein, mais il nous a donné une ressource pour comprendre les pensées difficiles et pour saisir quelque chose de la lampe prophétique qui s'allume pour nous éclairer lorsque la ruine est sans remède. C'est bien le cas aujourd'hui. Faites bien d'être attentif à cette lampe prophétique. Comment pourrions-nous, si nous venions la nuit dans ce local, nous diriger? Nous allons nous heurter contre les bancs, nous n'allons pas pouvoir nous trouver notre chemin. La lampe prophétique, elle brille dans un lieu obscur, dans la nuit morale de ce monde. Si éclatantes que soient les réalisations de ce monde, moralement, c'est la nuit. Et elle s'épaissit chaque jour davantage. Circonstances que nous vivons dans notre pays aujourd'hui sont un petit échantillon de cet effort de l'ennemi pour tout déstabiliser, pour jeter par terre l'autorité afin de lui substituer demain ce que nous avons dans l'Apocalypse, les deux bêtes, un homme qui surgira sur la scène et qui mettra fin à tout désordre quel qu'il soit. Mais c'est la dernière page de l'humanité. Et quelqu'un qui mérite d'être entendu et qui n'a rien de commun peut-être avec l'enseignement biblique disait, eh bien nous vivons dans les 25 dernières années du 20e siècle, nous vivons le dernier quart d'heure de l'humanité. Les hommes sont obligés de se rendre compte que nous allons au-devant d'événements redoutables. Mais nous ne sommes pas sans ressources. Et Dieu a voulu que nous ayons, comme on le fait pour des amis, que nous ayons une pleine lumière sur ce qui nous entoure afin que nous gardions. Bienheureux celui qui garde la parole de la prophétie, c'est-à-dire afin que nous soyons séparés de tout ce qui amène le jugement.
Dans la première partie du livre de Daniel, Dieu a fait des révélations aux rois de la terre et Daniel les a interprétées pour ses rois. Particulièrement le songe de Nebuchadnezzar et l'écriture sur le mur. Maintenant, à partir du chapitre 7 et jusqu'à la fin, la partie plus purement prophétique de ce livre de Daniel, ce sont des révélations que Dieu lui-même, dans des songes de la nuit, fait à Daniel, son serviteur le prophète, en rapport avec l'histoire des nations. Comme notre frère l'a dit tout à l'heure, Dieu révèle son secret. Dieu ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Comme autrefois, Dieu a révélé son secret à Abraham au sujet des nations, et même en rapport avec ces nations qui avaient gardé Lot comme esclave. De la même manière ici, maintenant, Dieu va révéler le secret de ce qui doit arriver à ces nations, dans les temps des nations, à son serviteur Daniel. Et pourquoi? Parce que Daniel avait un cœur qui était prêt à écouter. Et pour que des instructions soit reçu, qu'un effet moral soit produit. De sorte que si nous abordons maintenant ce sujet prophétique, ce n'est pas pour augmenter notre connaissance, ce n'est pas pour le sortir, ce sujet, du centre même qui est Christ, parce que toute la prophétie a Christ comme centre, mais c'est pour que nous comprenions davantage l'avenir de ce monde et que nous en soyons davantage détachés maintenant. C'est-à-dire qu'à notre place, nous manifestions ce caractère de ce résidu fidèle qui a traversé les circonstances rapportées dans la première partie de ce livre. Je voudrais indiquer rapidement l'ordonnancement des sujets du chapitre 7. L'introduction dans le premier verset. On notera en passant que l'expression des visions de la tête se trouve à ma connaissance 4 fois dans ce livre. Au chapitre 4, dans les versets 6 et 10. Au chapitre 7, au verset 1 et 16. C'est une des rares expressions où une révélation est donné en rapport avec la tête dans le corps humain. Habituellement, et surtout dans le Nouveau Testament, les entrailles de miséricorde, la ceinture de la vérité sur les reins, toutes les parties du corps humain qui sont données comme exemple, comme figure, ne se rapportent essentiellement jamais à la tête. Parce que la tête est le centre de la capacité intellectuelle de l'homme dans son état naturel. Et Dieu ne parle pas à cette partie de notre être. L'esprit doit être un instrument, et c'est la partie la plus élevée de l'être humain qui nous permet, par le Saint-Esprit, d'être en rapport avec Dieu. La capacité intellectuelle de l'être humain doit être au service du cœur, le centre de l'être. C'est le cœur, les affections et la conscience. Dans les versets 2 à 6, ce sont les 3 premières bêtes qui sont les 3 premières parties de la statue du chapitre 2. Dans l'ordre, Babylone, les Mèdes et les Perses, l'Empire grec d'Alexandre. Dans les versets 7 à 12, c'est la 4e bête, la bête romaine. Au verset 13 et 14, Christ, comme fils de l'homme, entre dans la scène et il est distingué ici de l'ancien des jours, Dieu lui-même. À partir du verset 15 jusqu'à la fin, Daniel pose la question pour que la révélation prophétique de cette 4e bête lui soit donnée et elle lui est confiée à partir du verset 19 jusqu'au verset 27. Et le verset 28 conclut cette première partie de la partie prophétique du livre. On notera que le centre même de toute cette révélation, c'est quand même la bête romaine. La puissance a été confiée par Dieu à la première nation, aux Chaldéens, à l'empire de Nebuchadnetsar, par une décision divine et un transfert direct de la puissance. C'est une opération divine qui a transféré son trône, le trône de Dieu, de Jérusalem à la Chaldée, à Babylone. Nebuchadnetsar a été suivi par Belshazzar, son fils, qui n'a pas plus voulu écouter la leçon que Dieu voulait donner à son père, qu'il n'a écouté sa propre leçon. Et son royaume lui a été retiré 68 à 70 ans après l'instauration de ce royaume. L'Égypte a cherché à s'interposer et n'a pas réussi. Il était dans la pensée de Dieu de communiquer à Nebuchadnetsar la puissance absolue. La chute de Babylone marque la délivrance du peuple de Dieu et son retour dans le pays de la promesse après les 70 ans, les 70 ans de la transportation. Et c'est à ce moment-là, par Darius et Cyrus, que s'est opéré le jugement de Dieu sur Babylone infidèle, la délivrance du peuple et son retour dans la terre promise. Mais de la même manière, si le royaume a été transféré de façon dispensationnelle et providentielle à ce 2e royaume des Mèdes et des Perses, les Mèdes et des Perses n'ont pas été plus fidèles que Babylone l'avait été. De sorte que leur royaume, après un temps, leur a été de nouveau ôté et a été transféré au royaume grec, essentiellement à l'empire d'Alexandre, qui a vécu 12 ans, qui a conquis à peu près l'ensemble de la terre habitée et qui a trouvé la mort dans des conditions extraordinaires au bord de l'Indus. D'ailleurs, on voit encore actuellement au Pakistan le lieu extrême qu'Alexandre a atteint à la fin de ses conquêtes. L'Empire grec a été transféré aux 4 généraux d'Alexandre et ensuite la domination leur a été retirée et a été transférée à l'Empire romain, qui est pour nous le plus important. Celui qui a été, qui ne cesse d'être maintenant et qui plus tard va reparaître sur la scène prophétique.
Il faut donc bien comprendre dans ce chapitre qu'il y a une partie de la prophétie qui est déjà réalisée. Nous venons de l'entendre, une partie de ces royaumes étaient et ne sont plus. Et quant au dernier royaume, il était et il n'est plus, mais il sera de nouveau. Cela a été rappelé dans la première réunion. Il faut bien situer les choses sur le plan historique, sur le plan moral, sur le plan de Dieu. Ce sont deux choses qui sont différentes et, comme on l'a dit, il ne faut pas pouvoir satisfaire notre curiosité, mais en tirer une leçon morale. Cela est très important de situer les choses pour bien comprendre ces différentes bêtes. Tout d'abord, la signification de la bête. Nous comprenons que ce n'est pas un terme qui est utilisé au hasard par la parole de Dieu. La bête désigne l'homme dans le fait qu'il n'a pas de relation avec Dieu. Parce que l'homme a été créé pour être en relation directe avec son Créateur. Par le péché, cette relation a été rompue et maintenant l'homme naturel dans ses péchés est une bête aux yeux de Dieu dans le sens qu'il est sans relation avec son Créateur et avec Dieu. Une bête. Mais cette bête, elle apparaît, nous le voyons au verset premier, elle apparaît au verset deuxième. Les 4 vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. La mer est le symbole de l'agitation. Les 4 vents, c'est le symbole de la violence, de cette situation politique qui devient complètement anarchique. Et cela est prouvé historiquement. C'est quand l'anarchie est la plus totale qu'un homme réussit ou une forme de gouvernement particulièrement autoritaire, totalitaire, réussit à s'imposer. Et ces formes de gouvernement dont il est parlé ici se sont imposées le plus souvent, et en particulier ce sera le cas dans l'avenir par l'établissement de la bête romaine restaurée, ressuscitée. Ces formes de gouvernement se sont instaurées au moment où l'anarchie était la plus complète. Ainsi donc, la mer est le symbole de l'agitation des nations, les 4 vents, le symbole du déchaînement des passions dans les formes de gouvernement. Et ces 3 éléments, les vents déchaînés, la mer et les bêtes comme symbole des différents gouvernements, montrent bien que tout est lié à la terre. Mais ces formes de gouvernement sont citées, il n'y a pas d'autres, il est bien évident que c'est parce qu'il s'agit des formes de gouvernement qui ont été ou qui seront d'une manière ou d'une autre directement en relation avec le peuple d'Israël. Car la prophétie a en vue le peuple élu de Dieu, le peuple rejeté pour un temps et le peuple restauré pendant le règne de 1000 ans. Donc ces formes de gouvernement sont les formes de gouvernement en relation avec le peuple d'Israël. Et il ne faut pas l'oublier, parce que si les questions, par exemple, du roi du Nord ou du roi du Midi, ou qu'il ait parlé de l'Orient ou de l'Occident, c'est toujours en relation avec ce que le prophète Daniel appelle la terre de beauté, c'est-à-dire la Palestine. Ainsi donc, nous avons ces différentes bêtes qui se succèdent sur le plan historique, qui se sont succédées sur le plan historique, et ensuite la quatrième bête qui intervient depuis le verset 7. Nous aimerions encore dire juste un mot qui nous paraît intéressant, c'est le verset relatif à la première bête, le lion, avec des ailes d'aigle. Ses ailes furent arrachées et un cœur d'homme lui fut donné. Il est question donc du royaume de Babylone, du royaume de Nebuchadnezzar. Le lion, c'est l'animal le plus noble, comme l'or est le métal le plus précieux. C'est ainsi que dans la vision de la statue, dans le chapitre 2e, le royaume de Nebuchadnezzar était représenté par la tête, c'est-à-dire l'intelligence, et représenté par de l'or, ce qu'il y avait de plus précieux. Et l'histoire nous apprend que cette civilisation de Babylone était une des civilisations les plus brillantes. Et un cœur d'homme lui fut donné. Cela peut trouver son explication dans l'expérience que nous ne retrouvons plus dans les autres rois ou les autres formes de gouvernement, l'expérience spirituelle, pourrions-nous dire, de Nebuchadnezzar. Nous revenons très succinctement sur cette personnalité de Nebuchadnezzar, d'abord pour son intérêt pratique et moral, et d'autre part parce que ça explique, me semble-t-il, ce cœur d'homme. Nebuchadnezzar, dans le premier chapitre, au verset 20e, a reconnu que la sagesse qui était donnée et l'intelligence qui était donnée chez ces croyants juifs était 10 fois supérieure aux autres. C'est une simple constatation. Ensuite, au chapitre 2, au verset 47e, il reconnaît que le Dieu de Daniel est un Dieu qui est supérieur aux autres dieux. Donc, il considère que Dieu d'Israël est un Dieu parmi d'autres dieux, supérieur peut-être, mais un Dieu parmi les autres. Et au chapitre 3e, au verset 29e, il est parlé alors vous m'excusez un petit instant au verset 28e, béni soit le Dieu de Sadrach, de Mésaque et de Abednego. Donc il reconnaît qu'il n'y a plus, il ne fait plus mention que d'un Dieu, mais qui est le Dieu des Juifs, mais qui n'est pas son Dieu à lui. Tandis qu'au chapitre 4e, il parle du Dieu très haut. Son intelligence progresse. Et il reconnaît que le royaume de ce Dieu-là est un royaume éternel. Il a une vision d'avenir. Vous voyez la progression depuis la vision des serviteurs intelligents, certes, mais jusqu'à une connaissance toujours plus grande de Dieu. Mais dans tout cela, il n'a pas connu ce qu'il était lui-même. Il reconnaît sa grandeur, l'immensité de son pouvoir, mais il ne se reconnaît pas lui-même. Et Dieu veut l'amener à se connaître lui-même. Et ce sera l'expérience du chapitre 4e, où il dit au verset 28, « Tout cela arriva au roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, il se promenait dans le palais. Il le dit, « Voilà la Babylone que j'ai construite, la grande, etc. » Il se reconnaît comme un monarque extraordinairement puissant et aux capacités puissantes. Et alors Dieu le fait tomber, il devient comme une bête, jusqu'à ce qu'il apprenne à se connaître véritablement, jusqu'à être restauré. Il est dit un peu plus loin, il mangea au verset 33 du chapitre 4, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut baigné de la rosée des cieux, etc. Et alors, Au verset 34, Nebuchadnezzar élève ses yeux vers les cieux, son intelligence lui revint et il bénit le Très-Haut. Et je louais, dit-il, et magnifiais celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle et dont le royaume est de génération en génération. Autrement dit, dans ce passage extraordinaire, après son expérience où il doit reconnaître son néant total et complet, puisqu'il est devenu une bête, il reconnaît que c'est de Dieu que provient toute chose. On peut vraiment appeler ça la conversion de Nebuchadnezzar. Expérience étonnante, extraordinaire, qui l'amène à se reconnaître lui-même, comme jadis par la souffrance, Job a dû faire l'expérience qu'il était un homme de rien et qu'il était néant devant Dieu. Et alors, lorsqu'il est parlé de ce royaume de Nebuchadnezzar, ce royaume de Babylone dans la première bête, d'abord un lion, c'est un animal remarquable et qui en impose. Ensuite, elle avait des ailes d'aigle parce que sa domination s'est largement étendue et qu'il s'est déplacé très rapidement pour ses conquêtes. Et ensuite, ses ailes sont arrachées et un cœur d'homme lui fut donné. Voilà peut-être, me semble-t-il, la signification de cette image que la parole emploie pour nous parler de cet empire.
En revenir sur l'exposé qui a été fait de la division du chapitre, simplement une remarque complémentaire. Les trois premières parties, donc, versets 2, 7, 13, commencent par « Je vis dans les visions de la nuit ». La dernière partie, c'est l'interprétation des choses. Donc, on vient de nous esquisser l'histoire de ces trois premiers empires. Et donc, ils ont cessé d'exister. Le quatrième, celui qui va reparaître sur la scène, il n'y a pas d'animal sur la terre pour le représenter. C'est une bête effrayante et terrible. Il n'y a point d'animal capable de le représenter. C'est l'Empire romain. Et on peut noter que la petite corne du verset 8 est donc le chef de cet empire, c'est-à-dire l'homme de Apocalypse 13, premier paragraphe. Le chef de l'Empire romain. Ne pas confondre avec la petite corne du chapitre 8, verset 9e, il s'agit alors d'Antiochus Épiphane. C'est le chef de l'Empire romain. Il est intéressant de se reporter à ce chapitre 13 de l'Apocalypse, en rapport avec ce qui est dit ici. Il a une bouche qui profère de grandes choses. Le caractère d'iniquité est fortement souligné, n'est-ce pas? Et elle porte des noms de blasphème, cette bête qui monte de la mer, de l'agitation des peuples. Et la terre sera dans l'admiration de la bête. C'est deux hommes, nous verrons, enfin l'homme de péché, l'Antichrist, deuxième paragraphe d'Apocalypse 13, incarneront toute la puissance du mal, une véritable trinité satanique. Certains commentateurs ont pensé que nous avons en Genèse 6, dans ce premier paragraphe, quand il est parlé des fils de Dieu qui s'unirent aux filles des hommes, paragraphe d'ailleurs que la parole de Dieu laisse dans l'ombre et nos frères qui nous ont enseigné ne s'avancent pas trop. Il y a différentes interprétations, moins deux. Mais il y a là il en est résulté un état de choses que Dieu a dû balayer par un jugement sans précédent. Il n'y aura plus de déluge. L'arc est dans la nuée, il n'y aura plus de déluge. La terre est réservée pour le feu. Mais il y eut donc des géants, des hommes de renom. Eh bien, ces deux bêtes seront des hommes de renom sur la terre à ce moment-là. Toute la puissance satanique agira en eux et ils auront un pouvoir, notamment la deuxième bête, un pouvoir surnaturel. Ils seront investis de pouvoir satanique faisant descendre le feu du ciel. Ce sera donné à la deuxième bête, l'Antichrist, et qui agira en association avec le chef de l'Empire romain. Alors donc, bien distinguer ces deux cornes, celle du chapitre 7, c'est le chef de l'Empire romain, et celle du chapitre 8, c'est Antiochus Épiphane. Ainsi, cet empire reparaîtra sur la scène dans son caractère impérial, tel qu'elle l'avait eu au commencement, avec 10 rois, une confédération de 10 rois, qui agiront sous son autorité. Ce sera pour les hommes qui seront sur la terre un moment terrible. On se situe là dans une section du livre de l'Apocalypse qui, on peut signaler cette division, jusqu'au chapitre, il y a la parenthèse du chapitre 7, et ensuite nous allons jusqu'au chapitre, du chapitre 6 au chapitre 11, verset 18. Ce sont les voies de Dieu envers le monde. Et ensuite, nous avons chapitre 10 à 11, verset 13, la parenthèse qui correspond à la demi-semaine de Daniel, Daniel 9, n'est-ce pas? En somme, le premier volume de l'Apocalypse se termine au verset 18 du chapitre 11. Le deuxième volume commencerait au verset 19 du chapitre 11. Il y a deux grands volumes dans ce livre. Il y a des subdivisions, nous savons. Et nous avons donc là, nous arrivons donc là à la dernière demi-semaine de Daniel, avec la manifestation de ces deux hommes agents de Satan investis de pouvoir surnaturel.
Pour l'état éternel, nous n'allons pas plus loin. La remarque qui vient d'être faite, elle est très très importante. Sauf pour l'état éternel, le chapitre 21, nous n'allons pas plus loin dans le cours du développement des événements prophétiques que le chapitre 11, verset 18. C'est le troisième malheur, la septième trompette, le royaume du monde de notre Seigneur Jésus-Christ est établi. Et avant cet établissement du royaume du monde de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a tous les événements de la crise précédente, de la dernière semaine de Daniel, qui balayera la terre comme un balai de destruction pour ôter tous les scandales et accomplir un jugement solennel, définitif, sur tout organisme, sur toute personne, sur tout. En d'autres mots, sur toute chose qui s'oppose au droit de Christ envers ce monde que Dieu lui a donné comme héritage. Il a mis toutes choses sous ses pieds, les choses qui sont au ciel comme les choses qui sont sur la terre. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre 7. Évidemment, ils doivent plutôt faire l'objet d'une étude attentive, personnelle, sous regard du Seigneur. Et en nous aidant des cris d'une valeur incomparable, qui n'ont rien perdu de leur actualité. Ils ont été écrits voici plus d'un siècle. Et quand on lit ce que Dieu a donné à nos frères au commencement, on pourrait facilement changer le chiffre du siècle, et le livre n'est pas démodé, alors que tout ce qui se passe aujourd'hui passe de mode avec une vitesse sans précédent, vitesse accélérée. Mais ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, par le moyen de frères qu'il avait éclairé, demeure un trésor d'une valeur inestimable. Et n'y aurait-il, Cela ne nous met pas en valeur, loin tant s'en faut, est plutôt de nature à nous faire baisser la tête. Mais n'y aurait-il que la prophétie, ce que le Seigneur a donné au siècle dernier à nos frères pour montrer que le Seigneur avait mis sa main, sa bonne main sur eux pour les éclairer, les reconnaissant comme ses amis, ce serait bien suffisant. Parce qu'on peut faire des recherches et on ne trouvera dans aucune littérature chrétienne, on ne trouvera jamais la précision, l'ordre et l'exactitude des faits présentés comme nos frères ont pu le faire. Et nous répétons, loin de nous vanter de cela, qu'avons-nous fait de ces trésors? Ça, c'est une question de très très haute importance. Comment donnons-nous raison de tant d'enseignements que nous avons reçus? Donnons-nous raison de ce trésor en le montrant dans la pratique, car Dieu nous l'avait donné pour cela. Encore un mot sur ce chapitre 7. Il y a eu trois rois de Babylone. Jérémie 27 ne laisse aucun doute, malgré certaines données de l'histoire qui ne sont pas d'accord avec ce fait, mais la parole de Dieu, nous savons bien, elle se vérifie toujours. Et l'homme est obligé de constater plus tard, par des découvertes, à ce que nous avions cru être la vérité doit être corrigé. Ce qui était vrai hier est mis en doute aujourd'hui, et demain on devra dire « Ah, ce n'est pas tout à fait cela ». On a dit que le chemin de l'homme, des découvertes de l'homme, de l'intelligence de l'homme, le chemin de l'homme est semé d'une quantité d'épaves, de toutes sortes de théories qu'il a fallu abandonner. La parole de Dieu n'est jamais en retard. Elle ne nous demande pas d'être traités avec une certaine mansuétude, étant donné son âge, et qu'il nous faudrait accepter que certaines retouches doivent être apportées. Elle est toujours vivante, éclairant la scène, et loin d'être en retard sur son temps, précédant le temps dans lequel nous sommes pour nous montrer vers quel avenir le monde se dirige. Ceci dit, trois rois de Babylone. Nous sommes donc à la troisième année du troisième roi de Babylone. L'empire babylonien n'est pas encore culbuté. Il le sera bientôt par les armées perses. Daniel a reçu que Daniel est parti en captivité. Et environ peut-être 65 ans qu'il nous a donné l'explication de la grande statue dont le roi de Babylone avait eu le songe. Et 65 ans plus tard, Daniel reçoit alors pour lui-même et pour le petit résidu qu'il représente, car Dieu reconnaît toujours son peuple dans un petit résidu. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il a fait des promesses, et bien qu'il doive écrire l'Oami pendant un temps sur lui, il ne l'abandonne jamais tout à fait. Et il reconnaît pour son peuple un tout petit résidu, si atténué soit-il en nombre, Daniel et ses quelques compagnons. Et c'est à lui, à Daniel, que le Seigneur va parler. Remarquons que le Seigneur ne parle plus comme par Ésaïe et Jérémie, ainsi dit l'Éternel, s'adressant à tout le peuple. Ce temps est passé. Israël est mis de côté, ils en sont allés à Babylone, ils ont suspendu leur harpe au saule au bord du fleuve, et ils pleurent maintenant sur le désastre sans remède de leur nation. Mais c'est trop tard. Mais à Babylone même, Dieu soutient, reconnaît, encourage un petit résidu qu'il a suscité, fidèle à sa parole. Et n'est-ce pas une chose extraordinaire que 65 ans après avoir reçu la révélation de la vision que Nebuchadnezzar avait vue pendant la nuit, à Daniel maintenant, plus au roi, mais à Daniel, Dieu va faire une nouvelle révélation. C'est un peu ce que nous avons dans les paraboles de Matthieu 13. Le Seigneur parle dans trois paraboles du royaume des cieux aux foules. Ils ne peuvent pas comprendre ces paraboles. Il faut que le Seigneur les explique. Nebuchadnezzar ne pouvait pas comprendre la portée de cette statue, dont les métaux, les dimensions correspondent point sur point pour point avec le déroulement de l'histoire. le métal devient toujours de moins en moins précieux, la densité de moins en moins forte pour arriver à de l'argile. Voilà la fin de l'histoire de l'homme, depuis l'or jusqu'à l'argile. Mais, répétons, 65 ans plus tard, c'est à Daniel que le Seigneur va donner la révélation des caractères internes, moraux de ces empires, comme dans trois paraboles du royaume des cieux, que le Seigneur interprète à ses disciples dans la maison, les traitant alors comme des amis, expliquant à eux trois paraboles que l'extérieur n'a pas entendues. De la même manière ici, à Daniel, représentant le peuple de Dieu, même s'il est mis de côté pour un temps, Dieu va révéler des choses extraordinaires. Troisième année de Belshazzar. Et nous sommes donc, retenons bien cela, chers amis, cela nous appelle, nous contribue à nous faire aimer l'Écriture. Le premier empire n'est pas encore culbuté. Il faut bien noter cela. Il y a encore quelques années avant que c'en soit fini de Belshazzar, que Dieu va juger d'une manière extraordinairement solennelle. Et Dieu donne à ce moment-ci, lorsque le premier empire est encore en scène, la description complète des quatre empires avec leur caractère si précis tel qu'ils allaient être représentés dans l'histoire. N'est-ce pas une chose extraordinaire? Premier empire, la tête d'or, le lion, avec des ailes d'aigle, le roi des animaux et le roi des oiseaux. On a dit le premier empire, je m'arrête tout de suite, je ne veux pas prendre la place de nos frères, on a dit que le premier empire c'était avec comme emblème la majesté. Le lion, devant lequel personne ne peut tenir, la démarche du lion, la parole en parle, et l'aigle, l'animal qui fond avec une rapidité extraordinaire sur sa proie. Le roi des oiseaux, symbole uni au roi des animaux. Telle est la majesté de Nebuchadnezzar, ce grand roi, tu es le roi des rois, et Dieu lui avait donné le pouvoir sans limite, comme il n'a jamais été donné à personne sur la terre. Le deuxième empire, rapidement, ses ailes ont été arrachées, nous avons entendu tout cela, c'est l'ours, bête cruelle, bête qui tue pour tuer, avec une tête lourde, et penchée sur un côté, le côté des Mèdes, le côté des Perses. Elle a trois côtes dans sa gueule, les trois rois de Babylone, dont l'empire allait disparaître, remplacé par celui des Mèdes et des Perses, principalement et surtout dans celui des Perses, le côté des Perses, le côté de l'ours, qui allait être prédominant. L'ours, une bête cruelle, qui tue pour tuer. Telles étaient bien les armées perses. Et n'est-ce pas une chose extraordinaire que Dieu a donné, par le truchement de cet empire perse et de son chef, l'édit le plus remarquable quant à sa libéralité pour les Juifs. Que celui qui veut remonter de la captivité dans laquelle il a été amené ici à Babylone, qui retourne à Jérusalem. Jamais les Perses n'agissaient ainsi pour aucune population qu'ils avaient soumise. Mais Dieu avait, nous l'avons vu hier soir à Jumé, Dieu avait réveillé le cœur de Cyrus et Isaïe certainement, et on parlait de lui. Daniel qui disait la parole de Dieu n'a pas manqué de dire à Cyrus, mais ton nom est déjà écrit dans la parole de Dieu depuis 150 ans. Dieu t'a appelé par ton nom, bien avant que tu paraisses sur la scène. Et il a dit de façon précise ce qu'il te donnerait à faire. Comment est-ce possible? Daniel n'a pas manqué de placer Cyrus devant des déclarations aussi extraordinaires. Et ce roi, la première année de son règne, bien qu'il représente l'ours cruel qui tue pour tuer, donne la liberté au peuple juif. À la tête de 127 provinces, il s'occupe d'une petite province à l'extrémité de son empire et s'occupe de la maison de Dieu à Jérusalem. Chose extraordinaire, il avait eu une montagne de soucis bien plus grand que celui d'un petit peuple qu'il avait asservi, le peuple juif. Mais Dieu avait réveillé son cœur. Et enfin, la troisième bête, c'est un léopard. Et il a quatre ailes d'oiseau. Quelqu'un a écrit ce que les naturalistes connaissent bien, c'est l'animal qui bondit avec la plus grande vitesse. Et la robe de ce léopard parle des gloires de celui qu'elle représente, Alexandre le Grand. qui en quelques années est allé avec ses armées jusqu'à l'Indus, jusqu'au fond de l'Asie, et disant, arrivé là, quel dommage qu'il n'y a pas encore un autre empire à conquérir. Avec une vitesse foudroyante, culbutant, nous avons tous un peu appris l'histoire, culbutant l'hégémonie des Perses, cet homme est marqué, est inscrit dans l'histoire par le symbole du léopard, qui bondit avec une vitesse qui atteint 112 km à l'heure. Le lièvre n'atteint que 60 km à l'heure. Le léopard, quand il bondit, atteint 112 km à l'heure. Et pour accélérer cette vitesse encore, il a 4 ailes d'oiseau. C'est extraordinaire, la précision du symbole. Et ces nations ne sont pas encore sur la scène. Seulement, dernier mot, dans le prophète Ésaïe, voici un verset qu'il faut bien retenir, verset 12 du chapitre 17. « Malheur à la multitude de peuples nombreux, ils bruit comme le bruit des mers. » Et au tumulte des peuples, des peuplades, ils s'émeuvent en tumulte comme le tumulte des grosses eaux. Il ne peut pas être plus clair quant au symbole. Les grosses eaux, les rivières tumultueuses, les peuplades qui s'émeuvent comme le tumulte des grosses eaux, comme le bruit des mers, c'est bien l'agitation des nations, les révolutions desquelles, comme au temps de l'Empire français, après la Révolution française, un homme d'une habileté extraordinaire s'empare du pouvoir avec une main preste. Eh bien, nous savons tous, si nous avons lu un peu l'histoire, c'est intéressant de la lire du côté de Dieu, que ces grandes agitations, elles avaient lieu tout en même temps. En fait, les quatre empires ont pris naissance à peu près en même temps, grâce à ce brassement des peuples, ces convulsions auxquelles ils étaient soumis. Mais Dieu a tiré de cette convulsion l'un après l'autre ces empires. Mais quelqu'un a fait la remarque, elle est tout à fait fondée, que ces quatre empires ont la même, en temps, ont la même origine à peu de choses près. Mais ils n'ont paru sur la scène que lorsque Dieu en avait besoin. Il dira de Nebuchadnezzar, « Eh bien, j'ai un lion qui est caché dans un fourré. Et maintenant, je vais faire sortir le lion du fourré. » Car au moment de l'accession de Nebuchadnezzar au plus haut sommet de sa puissance, personne ne croyait que cette nation allait progresser avec une vitesse semblable, se substituer à l'Égypte et à la Syrie. Mais Dieu l'avait caché dans son fourré. Et il s'en est servi, c'est le prophète Habacuc qui nous en parle, et le prophète Jérémie, et il est apparu sur la scène comme une nation cruelle, vorace, une nation dont le prophète Habacuc nous donne une description extraordinaire. Alors, dernier mot, vous voyez, chers amis, avec quelle précision Dieu nous parle de ces quatre empires. Pour arriver au quatrième, elle n'a plus rien, notre frère vient de le dire, cette quatrième bête, elle n'a plus rien qui relève du règne animal, c'est un monstre. Nous en dirons quelque chose peut-être une autre fois.
L'empire chaldéen est comparé à un lion. L'empire des Mèdes et des Perses à un ours. Le lion déchire, l'ours étouffe. Les deux caractères du monde maintenant pour le chrétien, les deux dangers. Ensuite, l'empire grec d'Alexandre est comparé à un léopard. Pourquoi quatre ailes ? Parce que à la mort d'Alexandre, lorsqu'il avait 32 ans, le royaume n'est pas passé à sa famille. Les quatre généraux d'Alexandre se sont arrachés le pouvoir et ont commencé à se faire une guerre mortelle. Deux ont succombé et deux autres ont survécu. Le premier des deux généraux qui a survécu, c'est les Séleucus, qui ont pris le pouvoir dans les royaumes au nord de la terre d'Emmanuel. L'autre général a donné lieu aux générations des Ptolémées. Ils ont pris le pouvoir au sud, au midi de la terre d'Emmanuel. Et ils sont l'un et l'autre, ces deux généraux qui ont survécu au royaume d'Alexandre, ils sont le symbole, le centre du roi du nord et du roi du midi. Parmi la succession des rois qui se sont succédés dans le royaume du nord, notre frère M. Sagne parlait tout à l'heure d'Antiochus Épiphane. C'est effectivement un homme méprisé qui s'est élevé à la puissance, qui a fait un mal incalculable au peuple de Dieu. Épiphane signifie illustre. Effectivement, il a laissé le souvenir d'un homme illustre dans sa méchanceté. Et pour nous, il est très important de se souvenir que Antiochus Épiphane, qui a effectivement été suscité sur la scène prophétique au temps des Maccabées, c'est-à-dire à peu près 200 ans avant la venue du Seigneur sur la terre, est dans l'Écriture le symbole et la figure du royaume et du roi du Nord qui viendra plus tard, après l'enlèvement de l'Église. Et c'est une des clés de la prophétie. Souvent, des circonstances arrivées historiquement dans le déroulement des choses que l'Écriture nous présente sont le symbole de choses prophétiques qui arriveront après le départ de l'Église de la terre. Nous avons donc à nous souvenir que dans ces trois premiers royaumes, les Chaldées, Mèdes et Perses et Grecs, nous avons le lion, l'ours et le léopard. Ces royaumes se sont succédés historiquement de forme chronologique. Ils ont été les uns après les autres. Pourtant, le verset 12 nous dit qu'une prolongation de vie leur a été donnée. C'est-à-dire, si le pouvoir absolu leur a été retiré et a été transféré à la quatrième bête, l'Empire romain, les royaumes en eux-mêmes n'ont pas cessé d'exister. Je dirais en passant là une chose tout à fait remarquable, c'est que lorsque Paul écrivait, il classe le monde entre les Juifs, les Grecs et l'Assemblée de Dieu, et il ne parle pas des Romains, or c'était bien l'Empire romain qui régnait à ce moment-là, puisque c'est Pilate, un Romain, qui a condamné le Seigneur Jésus. Parce que la civilisation grecque a gardé une importance fondamentale et symbolise devant Dieu la sagesse humaine en face de la folie de la croix. Donc, le caractère et le souvenir de Babylone, des Mèdes et des Perses et de l'Empire grec s'est maintenu dans le royaume romain, dans l'Empire romain. Et ceci est donné d'une manière tout à fait remarquable dans Apocalypse 13, où nous retrouvons la quatrième bête. On n'a pu trouver aucun animal de la terre pour la représenter de façon valable, tellement elle était méchante, épouvantable et effrayante. Mais elle garde en elle-même le souvenir de trois choses des trois premiers empires. Apocalypse 13, « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. » C'est donc l'Empire grec d'Alexandre. « Ses pieds comme ceux d'un ours, c'est-à-dire des Mèdes et des Perses, particulièrement l'Empire perse, sa bouche comme la bouche d'un lion, c'est-à-dire le lion devant qui tout le monde se détourne, c'est l'Empire de Chaldée, de Nebuchadnezzar. » Cette bête, elle a 10 cornes, 7 têtes, et les 10 diadèmes sont sur les cornes. C'est-à-dire que l'ornement est du côté du pouvoir. C'est très important. C'est le pouvoir politique dans sa puissance extrême. Et parmi ces 10 têtes, une est particulièrement distinguée, qui a le pouvoir sur le reste. C'est un homme. Ce sera probablement un Italien qui, je pense, vit déjà maintenant. Il doit être probablement un homme mûr. Les choses vont arriver avant quelques années. Le Seigneur va revenir aujourd'hui, peut-être. Et les choses vont se mettre tout de suite en place. C'est un homme qui est caché quelque part, supérieurement intelligent, et qui va saisir l'anarchie dans laquelle les nations, essentiellement de la communauté européenne, du marché commun, de l'Europe occidentale, cette anarchie dans laquelle nous allons tous être plongés et qui sera arrivée à son apogée lorsque l'Église sera partie et que tout ce qui retient et celui qui retient auront été enlevés de la scène présente, cet Italien va saisir le pouvoir et va s'en servir d'une manière qui est contraire à Dieu. Elle va être l'instrument de Satan, l'instrument politique. L'autre instrument, il sera de forme religieuse, c'est la deuxième bête qui monte de la terre. C'est l'Antichrist, l'homme de péché. Il n'a, lui, que 2 cornes, il est semblable à un agneau. Il n'a pas les 10 cornes du pouvoir, ou les 7 cornes et les 10 têtes. Il n'a que 2 cornes, c'est la parodie de Christ. Christ, lui, comme agneau au milieu du trône, il a 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Voilà les 2 instruments politiques et religieux de la puissance satanique à l'œuvre sur la terre. Et Satan, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, est comparé à un dragon roux. Et regardons ses caractères. Au verset 3, il a 7 têtes et 10 cornes. le même nombre de têtes et le même nombre de cornes que la bête romaine. Mais les diadèmes sont sur les têtes au lieu d'être sur les cornes. C'est-à-dire qu'en fait, la puissance, l'intelligence suprême de cette créature céleste, tombée et méchante, qui est pour nous le symbole même du mal dans les lieux célestes, Satan, donne son pouvoir politique et le pouvoir religieux aux deux bêtes, la bête romaine et l'Antichrist. Voilà la trinité du mal. À ceci, il faut ajouter, pour être complet, pour bien comprendre le plan général de la prophétie, les deux autres bêtes, ou les deux autres têtes, qui sont d'un côté le roi du Nord et de l'autre côté le roi du Midi. Et ces deux empires, ces deux puissances qui vont s'affronter, nous le verrons peut-être dans Daniel 11, sont issus de ces deux généraux qui ont succédé à Alexandre le Grand dans le royaume grec. Le roi du Nord, c'est l'Assyrie. Je comprends, il me semble bien que l'Iran doit faire partie de ce pouvoir, doit être rattaché à cette forme du royaume du Nord et doit s'appuyer naturellement sur la puissance orientale, c'est-à-dire essentiellement sur la Russie, sur le bloc communiste. Mais l'exercice de ce pouvoir aura lieu dans les nations sur la terre immédiatement au nord de la terre d'Emmanuel. On comprend d'ailleurs pourquoi l'Iran et l'Irak se livrent une guerre absolument sans merci. Les Iraniens, les Perses, sont des Ariens. Elles se rattacheront naturellement au royaume du Nord. Ils sont un des instruments essentiels de cette confrontation du roi du Nord et du roi du Midi. Les Irakiens sont des Arabes, se rattachent en fait au royaume du Midi. Ils se rattachent au Ptolémée. Ce sont, au point de vue religieux, deux formes particulières de la religion musulmane qui se détestent l'un l'autre, de sorte qu'ils vont s'entretuer jusqu'à ce que personne ne reste, si Dieu n'intervient. La guerre ne peut cesser. C'est une confrontation sans espoir. Mais cette confrontation, elle aura lieu lorsque nous serons partis dans la terre prophétique, dans la terre d'Israël. Le roi du Nord, la Syrie, l'Iran, soutenu par la Russie, s'affronteront avec les Ptolémées, le roi du Midi, concentré avec l'Égypte et le monde arabe. Ce sera effrayant et ce sera la dernière bataille d'Armageddon.
Ce que dit notre frère M. Finet, nous voulons relever encore ceci. En revenant à la personne de Daniel lui-même, la haute critique n'a pas manqué de relever que la puissante formule, comme ils disent, « Ainsi a dit l'Éternel » ne se trouve pas dans ce livre. En effet, Dieu s'adresse à son serviteur, lui-même. Et cette intimité nous fait penser aussi à celle que Jean a connue sur l'île de Patmos. Il a reçu aussi des révélations glorieuses, le livre de l'Apocalypse qui rejoint celui de Daniel sur bien des points. Et il tombe aux pieds du Seigneur comme mort en le contemplant dans sa gloire divine, dans l'appareil judiciaire, fils de l'homme, avec une robe allant jusqu'aux pieds. Nous arrivons ici et il me semble que nous sommes là au cœur du sujet. La personne du Seigneur est devant nous avec le Fils de l'homme qui vient au-devant de l'Ancien des Jours. Il me semble que, pour nourrir nos cœurs, il faut nous arrêter un peu sur cela. Ici, on peut dire que sa déité est séparée de son humanité. Mais dans Apocalypse 1, elles sont réunies en une seule personne. C'est le Fils de l'homme, Dieu sur toute chose, béni éternellement, que j'en contemple. Et dans cette gloire, cet appareil judiciaire, ses pieds comme de l'airain brillant, son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Et Jean tombe à ses pieds comme mort, mais il met sa droite sur lui. C'est la grâce, cette grâce qui soutient le cœur du racheté toujours. Comment pourrions-nous contempler le Seigneur? Il nous faut toute la grâce qui vient de son trône sur lequel il intervient comme sacrificateur pour nous aujourd'hui. Et pour Daniel, eh bien, au chapitre 11, il entendra ces paroles comme l'aspect d'un homme, au verset 18, me fortifia et ne crains pas, homme bien-aimé, paix te soit. Quelle douce parole. Pour Daniel aussi, comme Jean, tombe aux pieds du Seigneur, Daniel entend ici, Daniel est effrayé et il entend ces paroles, Daniel, homme bien-aimé, cher racheté du Seigneur, nous sommes des bien-aimés. Bien-aimé en Dieu le Père, conservé en Jésus-Christ, nous dit Jude, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et nous voudrions mettre les jeunes en garde, en parlant tout à l'heure de la haute critique, contre des littératures douteuses. Douteuses. Satan cherche aujourd'hui plus que jamais à mettre de côté les Écritures. On a même dit que la parole était contenue dans les Écritures. C'est entièrement faux. La parole de Dieu, les Écritures, l'Écriture au singulier, c'est toujours la parole de Dieu. Eh bien, pensons à ce que Paul dit à Timothée. Fuis les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée. Que le Seigneur vous garde, chers jeunes gens, attachés aux Écritures, dans la simplicité de la foi, et le Seigneur révèle ces choses aux petits-enfants, il les cache aux sages et aux intelligents, il vous instruira, si vous vous tenez près de lui, si vous lui demandez de vous ouvrir la parole, il le fera, mais soyez gardés de toute cette littérature qui abonde aujourd'hui et qui vous entraînerait sur un terrain mouvant. Restez attachés aux Écritures. Alors la personne du Seigneur est là devant nous, l'Ancien des jours s'assit. Le Fils de l'homme vient devant l'Ancien des jours. Et il y a aussi le jugement. Ce n'est pas le jugement éternel d'Apocalypse 20, mais on pourrait en dire peut-être un mot.
En identifiant les bêtes comme on le fait, parce que la parole de Dieu le fait de cette manière. Parce qu'on pourrait demander, mais sur quoi peut-on se baser pour dire que le lion c'est l'empire chaldéen, l'ours c'est l'empire médo-perse, le léopard l'empire grec d'Alexandre, avec les quatre ailes, les quatre royaumes qui sont issus, la Thrace, la Macédoine, le roi du Nord et le roi du Midi, comme il en a été fait mention. Mais nous ne pouvons pas, évidemment, trop nous étendre, nous ne pouvons pas tout absorber dans notre esprit limité. Vaut mieux peut-être s'en tenir à notre texte et nous arrêter un instant encore sur la quatrième bête, parce qu'elle ne se trouve pas dans l'Ancien Testament historiquement. Que l'on ait trouvé dans les proportions de la statue une confirmation de l'histoire quant à sa durée, ce ne peut pas être mis en doute. Nous rappelons que le royaume de Babylone, la tête d'or, a duré 70 ans. Le royaume perse a duré 200 et quelques années, c'est la poitrine et les bras d'argent, vous voyez, les deux bras, le côté des Mèdes et des Perses, la dualité dans l'édification de cet empire. L'empire grec a duré 184 ans, et enfin l'empire romain, lui qui a débuté en 146, se terminera dans les années 450 et quelques jusqu'à sa dislocation finale. Donc, presque autour de 6 siècles sont les jambes très hautes, donc les jambes très longues qui nous parlent de la longueur de cet empire, mais nous l'avons vu au chapitre 2 qui a subi une éclipse. Nous en sommes maintenant, historiquement parlant, à la hauteur qui reste à accomplir de cette statue, c'est-à-dire l'épaisseur des orteils. Tout ce qui reste à accomplir, parce que tout le reste, tout ce qui est antérieur, c'est tout ce qui est au-dessus des pieds est antérieur quant à l'histoire. Tout est accompli. Mais la quatrième bête, disons-nous, comment l'identifier? Eh bien, c'est Luc qui nous donne, n'est-ce pas, une preuve que la quatrième bête, sous laquelle il vit, sous laquelle le Seigneur est né, se trouve donc bien indiquée dans le chapitre 2 de l'Évangile. Il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, premier empereur romain, portant qu'il fut fait un recensement de toute la terre habitée. Vous voyez, la prophétie s'occupe de la terre, et ce quatrième empire a la main haute sur toute la terre habitée, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire qu'il a conquis aux autres et sur lesquels il domine. Ce n'est pas la terre habitée tout entière, remarquons, mais sur la terre habitée. Et cher devancier JND précise quelque part que prophétiquement, la terre habitée, c'est l'Empire romain. Si la terre habitée voulait dire la terre habitée tout entière, il n'y aurait pas besoin, par exemple, dans le livre des Actes, dans cette affaire si remarquable de la Diane d'Éphèse, que les Éphésiens disent « Laquelle, en parlant de Diane qui est tombée du ciel, leur idole, la terre habitée et l'Asie entière révère. » Si la terre habitée voulait dire toute la terre connue, il n'y avait pas besoin d'ajouter l'Asie. Mais quand il est question de la terre habitée tout entière, le Seigneur en parle en Matthieu 24, c'est l'étendue de toutes les nations alors. Et l'heure de l'épreuve, remarquons cela, ne vient pas seulement sur la terre habitée, mais sur la terre habitée tout entière. Aucune nation, où que ce soit dans le monde, n'échappera à cette tribulation. Alors, chère dame, l'heure s'écoule rapidement, prenons peut-être trop de place, mais à l'égard de cette quatrième bête, j'aimerais donner lecture de quelques lignes seulement qui vous intéresseront, nous en sommes persuadés. Donc, il est dit dans Daniel, c'est un des caractères, elle est effrayante et elle est terrible. Dans ce chapitre 7, au verset 7, je voyais dans les visions de la nuit, voici, c'est beaucoup plus grave cette vision pour Daniel. Une quatrième bête effrayante et terrible, extraordinairement puissante. Alors, on sait que le livre des Actes fait mention d'un certain roi Agrippa qui avait donc hérité du royaume de Philippe, son oncle. Et au moment de la guerre que les Juifs se préparaient à livrer aux Romains, ce roi Agrippa leur a tenu un discours à toutes les autorités qu'il avait réunies dans certaines conditions pour rendre ce discours très solennel. Et il a pu dire que personne ne m'interrompe et ne murmure lorsque je dirai des choses qui ne lui sont point agréables. Et il va mettre le peuple juif en garde contre une guerre insensée à laquelle ils veulent se livrer alors qu'ils sont, conduits, un vent de folie passe sur eux et ils vont donner les raisons. Il va montrer ce qu'est l'Empire romain au jour où définitivement cette bête terrible, cette bête monstrueuse va mettre définitivement fin au royaume de Juda. Et voici ce qu'il dit, ça ne sera pas bien long, je cite seulement quelques courts extraits. Qu'y a-t-il de plus déraisonnable que de vouloir, pour de faibles raisons, s'engager dans une grande guerre contre de si puissants ennemis, dit-il, plus loin. Mais si nos ancêtres et nos rois, quoiqu'un comparativement plus riches et plus puissants que nous, n'ont pu résister à une petite partie de leurs forces, des forces romaines, sur quoi vous fondez-vous pour espérer que vos pères et vous, leur étant assujettis depuis si longtemps, vous pourrez maintenant liquider leur hégémonie sur vous? Il donne quelques exemples, et voici. Ces généreux Athéniens triomphèrent de toutes les forces de l'Asie, joints ensemble, obéissent maintenant aux Romains et voici, et voient leur république qui était comme la reine de la Grèce, soumise au commandement qu'ils reçoivent de l'Italie. Tant d'autres nations qui ne croyaient pas qu'il fût possible qu'on leur ravit leur liberté ont aussi reçu le joug de ces dominateurs de toute la terre. Et vous prétendez être les seuls qui n'obéirez point à ceux à qui tous les autres obéissent. Partout où les Romains ont porté la guerre, ils sont toujours demeurés victorieux. Ils ne se sont pas contentés d'avoir assujetti tout le Euphrate du côté de l'Orient, tout le Danube, toute l'Afrique. Ils ont été chercher un monde au-delà de l'océan et fait voir à la Grande-Bretagne, qui se croyait inaccessible, que rien n'est capable de borner le vol des aigles romaines. Croyez-vous être plus puissant que les Gaulois, plus vaillant que les Allemands, plus habile que les Grecs? Les Macédoniens en font de même, etc. Et ces mêmes Romains ne se sont-ils pas rendus maîtres avec 40 vaisseaux seulement de toute une mer dont nul autre auparavant n'osait tenter le passage, c'est-à-dire que les Romains sont allés en Angleterre. Et enfin, voilà la dernière chose que je voulais citer pour montrer que c'est une bête effrayante et terrible. Qui est celui de vous qui n'ait point entendu parler du grand nombre des Allemands? Et pouvez-vous n'avoir pas remarqué diverses fois quelle est la grandeur de leur taille et leur force tout extraordinaire, puisqu'il n'y a point de lieu dans le monde où les Romains n'aient des esclaves de cette nation? Mais quoique leur pays soit d'une si vaste étendue, quoique la grandeur de leur courage surpasse encore celle de leur corps, quoiqu'ils aient une fermeté d'âme qui leur fait mépriser la mort, et quoique lorsqu'ils sont irrités, ils surpassent en fureur les bêtes les plus farouches, ils ont aujourd'hui le Rhin pour frontière. 8 légions romaines les assujettissent. Que si c'est en la force de vos murailles que vous mettez votre confiance, considérez quelle force c'est à la Grande-Bretagne de se trouver entièrement environnée de la mer et de posséder un si grand pays qu'il peut passer pour un petit monde. Les Romains, néanmoins, l'ont dompté malgré les vents et les flots qui s'opposaient à leur passage, et 4 légions leur ont suffi pour obtenir l'obéissance de cette grande île. Voyez comme c'est remarquable, c'est l'historien Joseph qui écrit cela, contemporain des personnes qu'il cite. Bête extraordinaire, terrible, extraordinairement puissante, personne ne leur a résisté. Eh bien, Daniel, 600 ans avant que cette nation paraisse sur la scène, en donne une description dont personne ne peut mettre en doute l'exactitude, qui est terrifiante.